Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'émission qui est, comme on peut s'en douter, largement axée autour des diverses déclarations du président Macron sur les options potentielles dans le conflit ukrainien, notamment l'envoi de troupes au sol. Et c'est une émission qui a donc été enregistrée la semaine dernière, mardi 12 mars, alors qu'Emmanuel Macron n'en avait parlé que deux fois. Or, comme toujours quand on enregistre un peu en avance, il se passe des choses entre-temps et on a donc enregistré mardi après-midi. Et évidemment, le soir même, le président annonçait qu'il allait faire une intervention à l'Élysée le jeudi sur l'Ukraine, qui a ensuite été suivie d'autres prises de parole, notamment dans Le Parisien ce week-end. Alors, après, fonctionnellement, ça change pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas non plus eu de nouveautés conceptuelles fracassantes par rapport à ce qui avait déjà été dit et dont on parle dans l'épisode. C'est des prises de position semblables, mais dans des médias différents, notamment à la télé, donc exprimées plus directement pour un public français que les conférences de presse après des sommets internationaux. La seule exception notable peut-être là-dessus, c'est la mention dans l'intervention de jeudi du fait que la guerre en Ukraine serait une guerre, je cite, « existentielle pour l'Europe et pour la France ». Alors ça, c'est certainement un peu inédit. Par ailleurs, ça présente la particularité, comme quelqu'un me le faisait remarquer, d'être plutôt du vocabulaire stratégique russe, cette notion de guerre existentielle. En France, d'habitude, on parle plutôt d'intérêts vitaux. Particularité donc qui n'est pas inintéressante et qui mériterait peut-être d'autres commentaires, mais à cette exception près, donc il me semble que l'essentiel de ce qu'on dit dans l'émission s'applique très bien aux dernières prises de parole qui ont suivi l'enregistrement, et donc même s'il fallait mentionner le fait que le corpus s'est étoffé en quelque sorte depuis cette discussion, voilà, ça ne nous paraît pas particulièrement problématique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Casque et la Plume, le format de débat du Collimateur dont le titre ne fait apparemment plus polémique puisque personne n'a réagi cette fois, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau d'abord deux think tankeuses habituées de cette série, tout d'abord Ulrike Franck, Senior Policy Fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations. Bonjour Ulrike.
Bonjour.
Et Rim Momtaz, Senior Consultant Fellow à l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies. Bonjour Rim.
Bonjour Alexandre.
Et donc un nouveau venu à l'échelle de ce format, mais un grand habitué néanmoins du Collimateur, à savoir Olivier Schmidt, professeur au Center for War Studies de l'Université du Sud-Danemark. Donc bonjour, bienvenue à nouveau Olivier.
Bonjour.
Et bon, juste un mot là-dessus, pour rassurer les auditeurs qui seraient en manque d'Eli Tenenbaum, qui était là pour les deux premières éditions de ce format, il reviendra évidemment très prochainement à ce micro, mais surtout, on a toujours dit que ce serait un peu tournant du point de vue des intervenants, on a un petit pool un peu plus large, et en fonction des disponibilités des uns et des autres, et ce coup-ci, Olivier était de passage à Paris, et Eli n'était par ailleurs pas disponible, ce qui amène donc au renouvellement massif d'un tiers des intervenants pour l'émission d'aujourd'hui. Et on est donc réunis aujourd'hui pour parler de stratégie, de dissuasion et d'ambiguïté, beaucoup d'ambiguïté, plus ou moins stratégique et pour le meilleur et pour le pire, en direction des adversaires comme des alliés de la France. Je fais bien sûr référence aux déclarations du président Macron à la conférence en soutien de l'Ukraine organisée à Paris le 26 février dernier, où il a notamment déclaré ceci.
Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée, et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci il y a deux ans ». Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Et aujourd'hui, ils disent qu'il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
Alors évidemment, on n'entend pas autour de la table tout le monde qui faisait des petits gestes de sniper pour bien marquer ce que faisait Emmanuel Macron par cette déclaration.
Et moi, je me suis juste posé la question de qui pourrait-il parler quand il a critiqué certaines États.
Personne ne sait à qui il fait référence.
On est tous paumés là.
On va quand même vous poser la question, Ulrich, dans 5 minutes. Non, mais ensuite, je vais en mettre une deuxième parce qu'ensuite, il a un petit peu précisé conceptuellement ce qu'il était en train de faire.
Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en donnant des noms. Je dis que ça a été évoqué parmi les options. Je vous ai dit les 5 points sur lesquels il y avait un consensus qui s'était établi. Si ces points, d'ailleurs, étaient totalement mis en œuvre, il ne faudrait pas exclure qu'ils nécessitent des sécurisations qui justifient ensuite quelques éléments de déploiement. Mais je vous ai dit de manière très claire ce sur quoi la France maintiendra sa position, qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. La Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre.
Et donc, au-delà de l'emploi, pour une fois, judicieux du mot « j'assume », ce qui n'est pas si fréquent que ça dans des déclarations publiques ces jours-ci, on a là donc un peu l'idée, l'essence de ce qu'Emmanuel Macron a déclaré à cette conférence de presse. Ça a beaucoup fait réagir. Et c'est notamment autour de ces réactions qu'on va parler, puisqu'on a dit que pour ce format, on prendrait quand même pour ancrage un ou des articles. Et donc aujourd'hui, on a collectivement opté pour un papier de Foreign Policy qui date du 1er mars par Daniel Baer et Sophia Bech, qui travaillent tous les deux au Carnegie Endowment for International Peace, papier intitulé « Making Sense of Macron's Hints at Troops in Ukraine », qu'on pourrait traduire par « donner du sens à l'allusion de Macron d'envoyer des troupes en Ukraine ». Si on était moins charitable, on dirait « trouver du sens à cette allusion ». Et disons-le, mais le concept de l'article, c'est d'essayer de comprendre ce que le président Macron a essayé de faire sur le papier et parallèlement de détailler toutes les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, voire pour lesquelles c'est contre-productif dans l'immédiat, avec un sous-titre qui résume bien les choses « Keeping all options open could serve deterrence, but does nothing to help Ukraine now ». Donc garder toutes les options ouvertes peut renforcer la dissuasion, mais d'être en rien l'Ukraine dans l'immédiat. Et donc le thème, pour le résumer très grossièrement, c'est qu'il y a de l'idée, et peut-être, et un plan à grande échelle derrière ces propos, mais que concrètement, ça masquerait, ces déclarations, toutes les choses qui ne sont pas faites, notamment par la France, pour aider l'Ukraine. Donc il y a plein de choses à dire, depuis l'analyse effectivement directe de ces propos, jusqu'à de grandes questions, même de théorie sur la dissuasion et sur les manières de maîtriser une escalade dans un conflit. Mais donc pour commencer peut-être au niveau le plus bas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette analyse des propos du président de la République, peut-être Ulrike, puisque bon voilà, il y avait quand même.
Je suis l'allemande en résidence ici.
je vous cache pas que c'est essentiellement vous.
A priori, je le trouvais totalement ok cet article. Ce que les auteurs, à mon avis, essaient de faire est justement, enfin, making sense, donc expliquer un peu les options ou les raisons que Macron aurait pu avoir pour faire cette déclaration. C'est relativement cynique parce que c'est vraiment basé sur l'idée que oui, ben Macron, il dit toujours, il fait toujours des grandes déclarations, mais en fin de compte, la France ne fait pas autant que les autres pays qui critiquent. Et là, c'est vraiment en fait une dispute, disons, entre la France et l'Allemagne au moins depuis cette déclaration, mais même avant.
Mais disons-le, on en rigole un peu par allusion, mais c'est quand même des tacles dans les déclarations de Macron très très sévères directement à Olaf Scholz, puisque l'histoire des casques et des sacs de couchage, ça ne parle que de l'Allemagne. L'histoire des missiles longue portée, ça ne parle que de l'Allemagne. Enfin bon, et d'ailleurs, on peut signaler, quand même, c'est quand même assez agressif en sortie de conférence et au cours d'une conférence de presse de tacler à ce point-là quelqu'un qui était dans la pièce.
Absolument, et en fait, qui était même assise à côté de lui. Donc, a priori, l'idée, c'était justement de rassembler tout le monde et montrer à quel point on était unis. Après, bien entendu, il y a aussi eu des attaques, mais des critiques quand même de la France et de Macron du côté allemand. Par exemple, à la conférence de sécurité de Munich, Scholz a un peu mieux caché, mais quand même aussi fait un discours où il critiquait la France à justement ne pas faire assez. Donc là, en ce moment, il y a vraiment cette dispute entre les deux pays, comme quoi l'Allemagne semble être le freineur, disons, qui dit toujours non à tout. Mais en même temps, l'Allemagne est là devenue le supporteur le plus important de l'Ukraine, donc numéro 3 au nombre total après l'Union européenne et les US, et même en termes de GDP per capita, donc au niveau économique, ils font beaucoup, tandis que la France, dans les chiffres qu'on a, on a l'impression qu'elle fasse beaucoup moins, mais Macron est beaucoup plus, disons, vocal sur ces questions. Donc voilà, il y a une vraie dispute, je crois, là, et ça se voit aussi un peu dans cet article.
Mais on en reparlera peut-être, parce que le chiffrage, c'est évidemment un enjeu, on en parle beaucoup, c'est-à-dire, on ne va pas revenir sur les déclarations même du ministre des Armées qui dit « nous, ce qu'on envoie, ça marche », etc. Et à côté, on a ces chiffres où, effectivement, en termes de PIB, donc par rapport au PIB, la France a l'air assez loin derrière un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne. Rim Mamtaz, sur analyse.
Oui, donc j'ai juste commencé par la fin, c'est-à-dire cette question de est-ce que la France envoie assez. En fait, il y a pour moi un débat entre qualité et quantité, alors que les Européens doivent faire du qualitatif et du quantitatif. La France plaide en disant que elle, ce qu'elle envoie, c'est de la qualité. Les Césars, les scalps qui font la différence au front, même s'ils coûtent moins cher et donc le chiffrage n'est pas à leur avantage, en fait, ça fait une plus grosse différence sur le terrain. Ça, c'est la position française. Du côté
avec
ukrainien...
Avec deux, trois finasseries, puisqu'on peut mentionner qu'il y a eu une époque où on a comptabilisé, par exemple, les AMX 10RC, où on a, pour prendre le prix, on a pris le prix de leur remplacement.
Exactement.
C'est-à-dire les Jaguars. Donc, bon,
c'est ce que j'appelle la comptabilité créative dans laquelle que tout le monde fait en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, elle plaide la qualité. Et la réponse, c'est que oui, il faut de la qualité, mais il faut de la quantité quand on est dans un affrontement de l'intensité de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, les Allemands et les Français doivent vraiment arrêter de se prendre la tête comme ça et travailler plus en coopération. Donc ça, ce sera la seule chose que je vais dire là-dessus. Sur cette analyse et sur cet article, ça me fait de la peine de le dire, parce que par exemple, un des auteurs, Sophie Habèche, que j'apprécie beaucoup et que je trouve d'habitude très fine, j'ai trouvé cet article peut-être symptomatique d'un problème vraiment de compréhension de cette séquence. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information ou bien ils n'ont pas eu le temps de parler avec les bonnes personnes, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils ont écrites qui sont pas vraies. Ou bien qui sont imprécises. Et je vais juste parler de quatre choses, et puis après on pourra rentrer peut-être plus dans le détail. Ils affirment qu'il n'y a pas eu de coordination avec les partenaires et les alliés. Ce n'est pas vrai. Moi, je vous donne une anecdote à mon niveau. Quand j'étais à Munich, à la conférence de sécurité de Munich, plusieurs ministres d'affaires étrangères européens m'ont parlé personnellement. Donc, ce n'est pas les Français qui m'ont raconté leur spin. Ce sont des ministres des affaires étrangères de pays européens qui m'ont parlé à Munich, qui m'ont dit que ça faisait au moins 10 jours qu'ils avaient reçu des propositions, qu'ils avaient discuté avec leurs homologues français à différents niveaux, niveau militaire et diplomatique, de certaines options pour augmenter la visibilité et l'engagement en Ukraine.
Munich, juste, je vais préciser, c'est un de ces grands raouts, la principale conférence entre universitaires et surtout militaires et surtout les appareils,
décideurs,
milieu stratégique, disons, de chaque pays. Et en l'occurrence, cette année, c'était du 16 au 18 février, donc c'était 10 jours avant la conférence d'aide à l'Ukraine.
Et donc, ça faisait déjà au moins 10-15 jours qu'ils avaient ces conversations avec leurs homologues français. Et ces conversations ont continué jusqu'au 26 février, qui est le jour de la conférence tenue à Paris. Il y a eu 3 papiers de discussion envoyés par les Français à leurs homologues à différents niveaux en préparation de cette conférence. Je ne suis pas en train de dire que le côté français a géré le process parfaitement. Peut-être qu'ils auraient dû prendre plus de temps parce que leurs partenaires sont tous des systèmes parlementaire, c'est pas le système quasi monarchique français de la 5e République. D'accord, aucun autre chef d'État et de gouvernement européen ou même américain n'a le pouvoir exécutif que le président français a. Donc ils auraient pu prendre un peu plus de temps, mais dire que la France a juste surpris ses partenaires en parlant de ça, c'est de la mauvaise foi.
Est-ce qu'on peut rester sur ça juste rapidement? Parce que je crois que leur critique, c'est pas... Je crois pas qu'ils disent... Personne n'a jamais parlé de ça.
Ils disent Macron a surpris ses homologues. Ce n'est pas vrai.
Oui. Je ne sais pas si eux, ils veulent dire ça, mais moi, je dirais que le problème, c'est moins que personne n'a jamais parlé des troupes au sol et tout d'un coup, c'est Macron qui le dit. En fait, c'est certainement pas vrai, vu que c'était carrément à une réponse d'une journaliste qui faisait référence à quelque chose qu'un autre chef d'État
avait dit. Le premier ministre slovaque.
Exactement. Donc, on savait bien qu'on parlait déjà de ces troupes au sol. Donc là, c'était pas la surprise. Je me demande plutôt que... Est-ce que la surprise, c'était pas plutôt cette... Ce qu'il a dit sur ça, qui n'était pas vraiment une annonce, mais le fait qu'il a... plus ou moins annoncé que ce n'était pas exclu. Donc, je veux dire, la communication envers le monde entier, c'était ça qui a peut-être surpris les gens, plus que le fait que ça a été discuté. Parce que ça, tu as tout à fait raison, on le savait, il y avait des non-papiers apparemment, donc ça, c'est vraiment pas...
Mais là où c'est intéressant, c'est que ça rejoue aussi un certain nombre de clichés, un certain nombre de choses qu'on dit très régulièrement sur Emmanuel Macron et sur la France, qu'on a déjà dit à ce micro, que Rima a déjà dit, je ne sais plus dans laquelle des dernières émissions, qu'il y a une sorte d'habitude de ne pas se concerter, de faire les choses dans son coin, et que ça gêne, disons, la fabrique du consensus. On reviendra juste ensuite, mais juste Olivier, là-dessus.
Oui, sur le fond du papier, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il me semble que le papier n'a aucune charité interprétative dans la décision française. C'est-à-dire qu'il le présente comme exclusivement une espèce de geste pour renforcer la position française, pour éviter les critiques qui peuvent lui être faites, mais sans essayer de rentrer dans le détail à la fois de l'annonce elle-même, comme... Éric l'a mentionné, c'était une réponse à une question. Il n'est pas en train de dire on va envoyer des troupes en Ukraine demain. Enfin, alors que tout le débat semble s'être polarisé là-dessus, c'est pas du tout ce qui est dit.
Non, donc, cela dit, pour avoir peu de charité, bon, les questions souvent elles viennent pas de nulle part. Enfin, les journalistes savent plus ou moins dans quel sens on peut poser des questions et les chefs d'État savent aussi à peu près s'attendre à ce qui va arriver. Donc,
bon, oui, mais il me semble que le débat a pris une ampleur.
C'est pas un propos de comptoir de fin de soirée.
Je suis d'accord, mais il me semble que le débat a pris une ampleur qui est à mon avis, assez décorrélé des propos réels qui ont été tenus. Et ça, je veux dire, un peu comme Rim, il m'est arrivé d'être critique de la communication du président Macron par le passé. En l'occurrence, je pense que là, il y a une forme d'échec collectif à la fois de l'analyse et des journalistes dans la manière dont les propos ont été rapportés et interprétés après. Par contre, là où je pense qu'il y a une grosse difficulté, c'est que fondamentalement, tous les pays européens sont en train de marcher sur une ligne de crête particulièrement étroite entre, d'un côté, préparer et mobiliser leur population pour ce qui sera un conflit de longue durée avec la Russie. Donc il s'agit d'avoir en interne des discours sur ben, on a besoin de renforcer notre résilience, renforcer nos forces armées, discuter de notre écosystème médiatique, à quel point il est vulnérable et ainsi de suite. Mais en externe, il faut simultanément communiquer à la Russie que notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine va être crédible. Donc on ne peut pas d'un seul coup annoncer toutes nos faiblesses immédiatement. Et ce qu'a fait Macron pour moi avec cette annonce, c'est qu'il a forcé un certain nombre de pays européens à avoir cette discussion avec leur propre population plutôt que ce que les dirigeants l'auraient voulu. Ce qui, à mon avis, explique la réponse immédiate de Scholz, qui est « non, surtout pas », parce qu'il n'y avait pas eu de préparation de la population allemande avant, et que d'un seul coup, le débat arrive dans le débat public allemand sans concertation politique préalable. Même chose avec les Britanniques, et même chose avec un certain nombre de pays européens. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que maintenant que la poussière retombe un petit peu, un certain nombre de pays européens se sont positionnés en disant « oui, on n'exclut pas l'envoi de troupes au sol ». Les Pays-Baltes, la Pologne, les Néerlandais. Donc il y a tout. On voit que le débat a pris. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Macron a forcé un débat auprès de certains pays qu'il n'était pas encore prêt à avoir ou qu'il ne voulait pas avoir à ce moment-là.
Et je pense qu'il faut expliquer pourquoi Macron force ce débat maintenant. Il y a une évaluation en France, mais dans d'autres pays aussi, d'un changement de nature de la menace russe contre les pays de l'UE. Donc les pays de l'UE. On ne parle pas de l'Ukraine, on ne parle pas de la Moldavie, on parle des pays de l'UE. Et la France a commencé à faire un peu plus de communication stratégique. Bon, moi, je critique toujours ça parce que je pense que c'est pas encore assez, mais il y a eu un vrai progrès là-dessus depuis quelques semaines, où les services français ont commencé à révéler de plus en plus les attaques hybrides qui sont faites par la Russie contre la France directement. Et là, on parle d'attaques cyber sur des hôpitaux, on parle d'affrontements, pas directs, mais quand même des affrontements entre les armées de l'air, c'est-à-dire des avions français qui sont d'une manière ou d'une autre font face à une posture russe qui est plutôt agressive. On parle aussi d'opérations informationnelles.
Juste, on peut rassurer, c'est pas inédit, ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Ces choses-là, on les mesure pas comme c'est des tabous qui sont brisés, c'est des lignes rouges. C'est simplement, on peut mesurer la fréquence. Et du coup, à ça, la posture et l'agressivité russe.
Exactement. Donc la fréquence est plus importante que d'habitude. Il y a aussi des opérations qu'on appelle des opérations d'information, donc de la désinformation, des deepfakes en ligne qui commencent à être très dangereuses, spécialement à l'arrivée en préparation des élections européennes, dont ce deepfake de Macron en utilisant un habillage à l'antenne de France 24, qui a fait beaucoup parler, qui a beaucoup marqué les esprits au gouvernement, etc., etc. Donc la liste est longue.
Juste, on peut l'avoir là, ce deepfake qui disait quoi ? C'était quand ?
C'était quand, je ne me rappelle pas.
C'est très récent ou pas ?
C'était il y a quelques semaines. Et je pense que ça portait sur sa sécurité et sa visite en Ukraine. Mais je dois vérifier. Mais donc du coup, c'est pour ça que Macron, en fait, se dit aujourd'hui, il y a vraiment un changement de nature de la menace russe contre la France. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a aussi une préparation du sommet de Washington de l'OTAN qui arrive en juillet et une évaluation que continuer de faire la même chose dans le soutien à l'Ukraine ne va pas changer la donne et au contraire va mener à un enlisement et un échec, la défaite de l'Ukraine. Et donc, il faut changer la méthode pour essayer de changer la donne stratégique et de troubler le calcul stratégique russe. Et deuxièmement, essayer de faire des progrès sur l'Ukraine avant le sommet de l'OTAN et en dehors de l'OTAN.
Juste une seconde, puisque j'ai retrouvé ce deepfake, donc c'est pas un deepfake sur Emmanuel Macron lui-même, mais c'est un deepfake du journal, enfin ce serait du journal télévisé France 24, donc je vous le mets, c'est effectivement un deepfake.
Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre.
Donc c'est pas un deepfake sur Emmanuel Macron, c'est un deepfake d'un journaliste de France 24 qui est vraiment un journaliste de France 24 sur une info donc totalement bidonnée, mais donc on voit que... Et bon, quand on regarde de près, ses lèvres ne correspondent pas à ce qu'il dit, etc., etc. Mais manifestement, ils sont en train de fignoler certaines choses, les Russes. Ulrike Franck ?
Oui, donc là, on est dans une situation assez intéressante parce que moi, qui a priori est beaucoup moins critique d'Emmanuel Macron normalement et qui en fait dit assez souvent que ce qu'il fait c'est plutôt bien.
Parce que généralement on est totalement à front renversé. Normalement les Français critiquent beaucoup Macron et les étrangers ont plutôt tendance à le défendre. Plutôt,
exactement, exactement.
Et, là on est sur un truc très cliché, c'est terrible.
non mais en fait ce que je veux dire c'est que à mon avis, et j'ai beaucoup apprécié l'analyse de Rimla, mais à mon avis Macron aurait pu s'arrêter à deux moments dans sa réponse et ça aurait été mieux. Donc du coup, mon analyse, c'est qu'il a dit trop. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait assez souvent. Qu'est-ce que je veux dire ? Si son but était juste l'ambiguïté stratégique, donc cette idée de ne pas dire à l'adversaire tout ce qu'on ne fait jamais et qu'on ne fait pas, et juste dire que voilà, toutes les options sont encore ouvertes, il aurait pu s'arrêter après la phrase « Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. » Ce qui est vrai et ce qui laisse encore ouvert la possibilité de le faire. Numéro 1. Si, comme Rim, tu le disais, en fait, il voulait bien envoyer aussi un message aux Européens que la situation a changé et qu'il faut peut-être avoir des discussions, même si ça fait mal, sur d'autres choses qu'on doit faire, il aurait pu continuer jusqu'à nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Voilà, on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Le problème, c'est qu'il a continué et qui justement, là, il a commencé, par exemple, à critiquer l'Allemagne et autres, ceux qui disent jamais, jamais aujourd'hui, etc., etc. Et ça, bien que je peux le comprendre et bien que, bien entendu, on peut critiquer l'Allemagne et autres pour plein de choses qu'ils ont fait dans le passé, à mon avis, ça a déclenché directement cette réaction très, très négative de l'Allemagne. Bien entendu, juste pour être clair, s'il aurait juste dit « oui, il faut peut-être parler d'envoyer des troupes », ça aurait toujours eu une réaction négative en Allemagne. Mais là, l'Allemagne surtout, mais peut-être aussi autres, se sont sentis attaqués. Et donc Scholz, on peut peut-être parler de ce qu'il a dit exactement, mais le chancelier Scholz a réagi immédiatement, d'une manière pas très douée, à mon avis. Et donc ça a déclenché moi, je décris comme cacophonie européenne où, voilà, un acteur dit une chose et l'autre acteur dit non jamais. Et donc, du coup, on n'a pas ambiguïté stratégique, mais cacophonie stratégique.
Juste, on peut dire tout ça, on reviendra sur l'ambiguïté stratégique dans une minute. Mais bon, depuis, il y a eu du damage control par l'Élysée. Il y a eu, c'est-à-dire avec toute cette idée, puisque par ailleurs c'est devenu un sujet politique sur la scène française, puisque certains partis, disons aux extrêmes de l'échiquier, ont dit on va pas mourir pour l'Ukraine, on va pas les envoyer se battre. L'Élysée a quand même s'est retrouvé obligé de préciser, ça n'a jamais été ça, c'est plutôt pour l'entraînement, pour la maintenance, etc. Des choses que par ailleurs on a enregistré cette émission le 12 mars, le président Zelensky a dit c'est plutôt des bonnes idées, on gagnerait du temps pour tout le monde. Bon, non, c'est un damage control bienvenu dans le sens de l'esprit. Ça reste quand même un danger s'il y a des soldats français qui sont sur le territoire ukrainien et que, puisque les Russes ne se limitent pas particulièrement dans leurs frappes, il y en a qui venaient être frappés par des frappes à longue distance russes. Ça poserait quand même des problèmes d'escalade dans l'absolu. Olivier Schmitt ?
Mais c'est justement le but. Le but est et de signaler que si on est crédible dans notre engagement de longue durée envers l'Ukraine, on a du skin in the game, pour le dire en bon français, c'est-à-dire que potentiellement on peut accepter des coups. Et le fait d'accepter des coûts pour nos propres intérêts, c'est un signal de crédibilité et du fait que nous sommes volontaires pour soutenir l'Ukraine dans la durée. L'idée étant de, évidemment, les éventuelles troupes au sol, si un jour elles sont déployées, elles sont là pour aussi compliquer le calcul stratégique russe, qui normalement va y réfléchir à deux fois, avant de viser des zones dans lesquelles des soldats européens, membres de l'OTAN, sont situés, parce qu'ils deviennent de facto des protecteurs, en quelque sorte, de ces zones-là. L'idée est à chaque fois de compliquer le calcul pour Vladimir Poutine, qu'il se dise « est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» C'est ça l'objectif. Et je pense qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, mais il y a effectivement une question de timing là-dedans, qui est que la Russie manifeste qu'elle semble être dans une position de confiance, clairement. Le signal qui est envoyé, c'est qu'on pense remporter la guerre, donc il n'y a aucune raison de négocier. Et le but, c'est de rajouter des coûts potentiels pour les Russes, pour les forcer à changer de calcul. Donc je pense aussi que la question du timing dans cette annonce n'est pas complètement anodine. Je suis d'accord que la communication aurait pu être mieux maîtrisée et on sent bien qu'il y a une exaspération franco-allemande depuis plusieurs mois, qui malheureusement, en gros, on a mis les doigts dans la prise et, le courant est passé beaucoup trop vite. Mais il y a aussi un timing vis-à-vis de la campagne militaire elle-même et de la confiance dans laquelle la Russie semble être en ce moment.
Mais là, tu fais vraiment, ça donne froid au dos, ça fait peur aux Allemands si tu dis, il faut peut-être, enfin, une des raisons pourquoi on mettrait peut-être, théoriquement, des troupes au sol en Ukraine, c'est justement pour compliquer la pensée russe, parce que là, on parle des troupes ou des soldats d'un pays de l'OTAN. Parce que là, si tu dis ça, on pense directement à si jamais ils se font attaquer, on parle d'un potentiel article, situation d'article 5 où les pays de l'OTAN seront impliqués. Et c'est là où les Allemands disent « Ah mais non
!» En fait, je pense que Ulrike vient de mettre vraiment le doigt sur, pour moi, le fond du sujet, qui est le gouffre dans la culture stratégique entre la France et l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne, il y a d'autres pays aussi européens, mais c'est représentatif. Et je pense aussi qu'on simplifie trop l'automaticité de l'article 5 et de l'OTAN.
Absolument.
Quand la France perd des soldats dans le Sahel, il n'y a pas d'article 5. Okay. Oui. Ça fait partie d'un pays qui assume de faire des opérations extérieures. Le risque est là. Et puis, la France a une armée professionnelle avec des gens engagés qui savent très bien que le risque mortel fait partie de leur travail. Ça, c'est une culture qui existe en France, qui malheureusement n'existe pas en Allemagne et d'autres pays européens, parce que l'Allemagne, par exemple, ne fait pas d'opérations extérieures. Et c'est là où il faut des opérations extérieures de combat. Hein. Et c'est là où il y a vraiment un énorme travail à faire pour essayer de réconcilier, d'avancer vers le même but. Et malheureusement, l'Europe est en train de devoir le faire au milieu d'une guerre quand même de haute intensité sur le sol européen, même si ce n'est pas dans un pays de l'UE.
Simplement, on va le dire, vous êtes très généreuse, Rim, avec, avec l'opinion publique française, parce que oui, c'est peut-être un peu plus clair aujourd'hui. Au tout début, enfin il y a deux ans, au tout début de la guerre en Ukraine, il y avait quand même des idées d'automaticité de l'article 5, de « oh mon Dieu, si jamais on envoie des choses, on va tous mourir, ça va devenir automatiquement une guerre mondiale ». Bon, ça, Olivier Schmitt, il se trouve à faire sa thèse sur l'OTAN il y a un certain temps. Peut-être pouvoir nous confirmer quand même que, par ailleurs, ne serait-ce que il suffit de voir le traité de l'Atlantique Nord, il n'y a rien d'automatique de toute façon sur
juste
les processus politiques. Et donc, cette panique, voilà, ça demande un travail de pédagogie de long terme.
Mais une clarification, là, dans ce que je viens de dire, je ne parle pas de l'opinion publique, je parle vraiment du petit milieu stratégique qui parle de ces choses au niveau, je veux dire, Élysée, chancellerie. Hein. Et on voit la différence. Voilà. Et là, je cède la parole à l'expert réel qui est à côté de moi, qui s'appelle Olivier.
Sur l'OTAN, je vais renvoyer à une émission du Collimateur qu'on avait faite avec Amélie Zima au moment de la présidentielle hein, de 2022, si je me rappelle bien. On abordait ces questions en détail, et notamment le fait que la rédaction de l'article 5 précise bien que les partis doivent prendre les mesures qu'elles jugent nécessaires pour défendre un allié. Le fait que ce soit mentionné comme qu'elles jugent nécessaires, ça ne veut pas dire un emploi automatique de la force. Ça peut être aussi d'autres types de mesures. Mais voilà, je fais la pub du Collimateur sur le Collimateur. Je voulais juste mentionner, c'est juste pour l'anecdote historique, mais pour cette idée du fait que des troupes au sol crédibilisent la dissuasion et l'engagement, c'est exactement la raison pour laquelle les États-Unis avaient déployé des troupes en Europe durant la guerre froide. C'est parce que l'idée d'une escalade nucléaire immédiate et le fait que les États-Unis disaient qu'ils étendaient leur bouclier nucléaire aux États membres de l'OTAN, ça semblait peu crédible s'il n'y avait pas de troupes américaines sur le territoire européen. Pourquoi ? Parce que si les Soviétiques engageaient une action offensive contre un pays européen, les Américains auraient été en première ligne. Ils avaient un enjeu à maintenir, à se battre en quelque sorte. Et le fait que ces troupes-là en Europe se battaient crédibilisait le fait que d'un seul coup, les Américains, s'ils étaient en train de perdre, ils avaient un intérêt à éventuellement engager la dissuasion nucléaire. C'est à peu près la même logique, toute proportion gardée, parce que là, on n'est évidemment pas en train de parler d'une invasion d'un pays membre de l'OTAN, mais c'est à peu près la même logique de se dire que si on a des troupes au sol, ça complique le calcul de l'adversaire et ça signale qu'on a, on est crédible dans nos engagements parce qu'on accepte des coûts éventuels.
Il y a une chose que je voulais rajouter depuis le début, c'est qu'on a parlé de ce que Macron a dit en réponse à cette question que Bloomberg lui a posée pour réagir à un propos que le Premier ministre slovaque avait dit sur des troupes au sol. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans son propos introductif, en fait, il explicite les 5 catégories d'actions sur lesquelles il y avait eu un consensus. Et là, il parle de cyberdéfensif, donc aider les Ukrainiens dans le cyberdéfensif, la coproduction d'armement en Ukraine, la défense de pays menacés, c'est comme ça qu'il le dit directement par l'offensive russe en Ukraine, dont la Moldavie. Soutenir l'Ukraine dans comment tenir sa frontière avec la Biélorussie, avec l'envoi de forces non militaires, il le dit explicitement, et des opérations de déminage. Donc déjà, il est très explicite sur les termes du débat qu'il y a. Ce qui me frappe, c'est que quand il dit tout ça, personne ne réagit, il n'y a aucune vraie polémique. Mais ça veut dire que les gens ne réfléchissent pas réellement aux conséquences réelles de ça. Quand on parle de coproduction d'armement en Ukraine, ça veut dire qu'il y a des Français, des Allemands, avec Rheinmetall et d'autres, qui sont en Ukraine en train de monter des usines d'armement. Et comme on sait, ces compagnies sont des usines qui sont, comment dire, très proches du régalien. Bon, si elles se prennent une bombe russe, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas des troupes, mais est-ce que ça n'est pas une attaque sur les intérêts importants de la France ou de l'Allemagne. Rheinmetall était un des premiers à annoncer qu'ils allaient faire de la coproduction en Ukraine. C'est déjà en cours, ça c'est la première chose. Deuxièmement, la France a envoyé la police scientifique après Boutcha. C'est du personnel français.
Techniquement, c'est les gendarmes.
Ils
ne seraient pas contents que vous comprendiez, donc je le précise.
Mais je veux dire, c'est des Français. Et si l'un d'entre eux avait été ciblé ou était mort, c'est aussi des questions qu'on pose. Donc c'est des questions qui sont sur la table depuis longtemps. Et moi, c'est ce qui m'a gêné dans cette discussion depuis 2-3 semaines, c'est que j'ai l'impression que les gens ne prennent pas le temps de regarder le détail de ce qui est en train d'être discuté et de ce qui est en train d'être déjà fait depuis longtemps. Et donc j'espère qu'on va reprendre un peu ce cours. Et enfin, juste sur l'Allemagne et la France, parce que oui, c'est vrai que les propos du président Macron, comment dire, il a vraiment taclé très très fort l'Allemagne. Mais il faut aussi garder en tête comment Scholz s'est comporté pendant cette conférence. Et apparemment, et ça c'est à nouveau pas des sources françaises qui m'ont raconté, mais les gens autour de la table qui sont ni français ni allemands étaient assez mal à l'aise par la tension qui existe entre aujourd'hui Macron et Scholz. Et c'est une tension qui augmente depuis en fait l'annonce par Scholz de Zeitenwende, qui a été vécue, on va pas refaire tout le truc, mais qui a été vécue en France comme une certaine, un début d'attaque sur l'avantage stratégique que la France a. Et ça, c'est des questions sur lesquelles la France et l'Allemagne ont beaucoup de mal à discuter et à trouver un terrain d'entente. Et s'ils ne le font pas, en fait, l'Europe de la défense ne va pas pouvoir exister.
Ulrika ?
Donc, premièrement, deux points de nuance. Je crois que je le dois à ma nationalité, disons. Premièrement, ça date du début de l'émission, mais juste parce que Rim avait parlé de cette discussion de quantité et de qualité d'équipement qu'on envoie à l'Ukraine. Et l'argument, je crois, en France est un peu, oui, nous, on envoie de la qualité et les autres peut-être plus de quantité. Juste pour être très clair, par exemple, l'Allemagne envoie aussi le Léopard 2, certainement de la qualité aussi. Donc, force est de constater que l'Allemagne fait quand même beaucoup, bien que la communication est incroyablement mauvaise. Premier point. Deuxième point aussi, l'Allemagne...
C'est peut-être là-dessus que se fait l'Europe de la défense. C'est les problèmes de communication autour de
ambiguïté constructive.
Exactement. L'Allemagne fait bien entendu des opérations extérieures. Donc les forces armées allemandes étaient en Afghanistan. Bien entendu, ce n'était pas les mêmes sorts d'opérations que la France et autres Européens, Britanniques surtout, font. Mais on est aussi là en mer Rouge pour la mission européenne pour lutter contre les drones des outils et tout cela.
Et comment mais ça se passe d'ailleurs avec les drones, tous les drones qui passent autour des frégates allemandes? On peut rigoler parce qu'apparemment, il semblerait qu'une frégate allemande ait quand même tiré sur un drone Reaper et Dieu merci, ne l'ont pas touché.
Oui, on va pas entrer dans...
Est-ce que je peux juste rajouter qu'à la décharge de l'Allemagne, apparemment, ils ont fait une déconfliction avec les États-Unis et le commandement américain ne savait pas que le drone était dans la zone. Donc,
Comme d'habitude, c'est la faute des États-Unis.
Il n'était pas sous une chaîne de commandement militaire, je vais le dire comme ça.
Voilà, voilà.
Vous n'allez pas quand même m'empêcher de faire des vannes sur les frégates allemandes en mer Rouge. Enfin, je veux dire, c'est terrible, on ne va pas s'arrêter à des détails comme ça. Pardon, excusez-moi, Ulrich.
Mais après avoir fait cette petite défense de l'Allemagne, je veux rebalancer.
Je soutiens complètement Ulrich, by the way.
Oui, oui, non, c'était juste pour être très clair. Parce qu'on a déjà parlé un peu de ça, mais on ne l'a jamais vraiment dit. Parce qu'en fait, le chancelier allemand Scholz a alors répondu à Macron, en fait, le jour après, surtout, sur Twitter. Enfin, il a fait plusieurs prononcements, mais il y a surtout eu ses tweets qu'il a envoyés en allemand et en anglais. Et donc, ce qu'il a dit le 27, c'est qu'il est clair qu'il n'y aura pas de troupes terrestres des États européens ou de l'OTAN. Et ça, franchement, je trouvais assez inacceptable. Pourquoi ? Bah parce que c'est le chancelier allemand qui, bien entendu, peut déclarer qu'il n'y aura pas de troupes terrestres allemandes. Ça, c'est son droit. Bon, a priori, c'est le Parlement qui envoie des troupes. Mais bon, peu importe, le chancelier a quand même une chose à dire sur ça. Donc, il peut bien dire. Et s'il veut, il a tout le droit. Et ça peut avoir un sens de dire qu'il n'y aura pas de troupes terrestres allemandes. Il peut peut-être aussi dire qu'il n'y aura pas de troupes de l'OTAN, vu que là, il a aussi deux ou trois choses à dire. Mais de dire qu'il n'y aura pas de troupes terrestres des États européens, il n'a pas dit de l'Union européenne, il a dit des États européens, le jour après le président français ne l'a justement pas exclu, c'est n'importe quoi. Il ne peut pas le faire et ça, encore une fois, ce n'est pas de l'ambiguïté stratégique, mais c'est de la cacophonie où ce n'est juste pas possible. Je trouve ça assez hallucinant. C'était réfléchi, comme je l'ai dit. Il a publié en allemand et en anglais. En plus, Scholz, c'est pas Trump. Il n'est pas sur Twitter, genre à écrire n'importe quoi. C'est toujours de la vraie communication de l'État. Et ça m'a vraiment surpris ou alors choqué qu'un tel tweet peut être envoyé parce qu'il a tout simplement pas la légitimité de dire que, par exemple, il n'y aura pas de troupes terrestres françaises en Ukraine.
Donc, il y a les contours précis des troupes, pas de troupes, encore en concertation, pas en concertation. Et puis derrière, il y a le geste qu'essayait de faire le président Macron, et on a déjà commencé à en parler, mais ensuite, quelques jours plus tard, il l'a assumé encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nettement lors d'une visite en République tchèque, en déclarant ceci.
Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos est ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite et là qui rôde, pas chez nous.
Et là, c'est vraiment une déclaration extrêmement intéressante en termes de clarification conceptuelle de ce qu'il a essayé de faire. Alors après, est-ce que c'est de la clarification, de la conceptualisation a posteriori, c'est bien possible, mais il y a quand même une vraie pensée qui est derrière et qui a manifestement qui s'ancre sur un passif, qui est la notion des lignes rouges. Et c'est quelque chose qui a beaucoup été répété à droite à gauche, c'est le passif de la Syrie. Les lignes rouges de Obama et du président Hollande, et la ligne rouge est dépassée, et on ne fait rien, du coup, toute crédibilité disparaît. Et
donc, en 2013.
En 2013, pardon. Et donc, c'est cette idée-là qui est très clairement dite, hein, et c'est assez rare de voir un président en exercice faire quelque chose aussi même théorique, c'est l'idée qu'en fait, on ne va pas donner des lignes rouges, puisque visiblement, en faisant ça, on se cadenasse, on s'auto-menote et on simplifie le calcul de l'adversaire. Et donc, on va rester dans cette ambiguïté, on ne va pas dire clairement jusqu'où on va. Et de là, on viendra une sorte de posture dissuasive, disons, renforcée. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce geste-là, et même de la manière dont ça a été visiblement réfléchi à l'échelle française, je ne sais pas, Olivia Schmitt, non,
moi, je suis partante pour y aller. Donc, j'ai couvert le président Macron pendant 3 ans et demi quand j'étais journaliste, de manière assez, assidue. Et moi, après avoir couvert le conflit syrien pendant 8 ans. Et j'ai toujours été très frappée par combien ce moment en 2013 est fondationnel pour lui dans sa pensée. Il revenait, c'est-à-dire dès 2017, il en parle très souvent. Le fait que la France et le Royaume-Uni étaient prêts à faire des frappes parce que le régime du président Assad en Syrie avait utilisé des armes chimiques et que ça avait été explicitement décrit et défini comme une ligne rouge par Obama. Et quand ça arrive, l'utilisation de l'arme chimique, qui est avérée...
On peut rappeler qu'à cette époque-là, Macron était vraiment à l'Élysée, très très proche de François Hollande. Il était là, quoi.
Et Obama, à la dernière minute, donc, refuse de faire ce qu'il faut pour crédibiliser cette ligne rouge. Et c'est un truc qui a vraiment beaucoup marqué Macron.
Et Parlement anglais avait aussi pas donné son accord. Hein.
Il n'avait pas donné son accord. En fait. Mais c'était vraiment... Obama a utilisé le Parlement anglais comme une excuse. Pour aller vite, hein, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais c'est vraiment un moment très important pour Macron dans sa conceptualisation stratégique. Et là, ça revient d'une manière très claire. Et c'est quoi le second moment qui aide dans ça? C'est le fait que, je pense que les gens peut-être ont oublié, le président américain Biden, juste avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, 2 ou 3 semaines avant, les journalistes de la Maison-Blanche lui posent la question: est-ce que vous allez envoyer des troupes américaines en Ukraine si jamais il y a une invasion russe? Et le président Biden dit non. Il n'y a aucune ambiguïté stratégique. Et bon, il y a encore un débat, et je ne peux pas donner une réponse définitive là-dessus, mais beaucoup, d'experts évaluent cette déclaration comme ayant encouragé Poutine à envahir. Bon, je ne peux pas dire s'il l'aurait fait, si Biden avait dit quelque chose de différent, je ne sais pas, mais ça n'a pas aidé à le dissuader. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup marqué Macron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'efforce à ne pas faire la même erreur. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Après, moi, je me pose la question de, en faisant de l'ambiguïté stratégique, est-ce qu'il a besoin d'expliciter autant le fait qu'il fait de l'ambiguïté stratégique? C'est vraiment la question que je me pose. Mais je peux dire avec beaucoup de certitude que c'est très réfléchi à l'Élysée. Et puis en plus, il utilise le mot « assumé » dans cette petite citation 4 fois, je pense. Donc bon.
Non, mais on peut dire que ça, c'était probablement aussi à destination d'un public français. C'est-à-dire, c'est pour... Et de fait, ça a été très salué comme prise de parole. Autant il y avait un petit doute sur au moment de la conférence de soutien à l'Ukraine. Bon, on se demandait un peu, est-ce que c'est pas encore une cacophonie française? Est-ce que c'est pas encore Macron qui fait des siennes, etc.? Autant là, à ce moment-là, ça a été extrêmement clair, et en tout cas dans le milieu stratégique, mais même plus largement, ça a été la prise de parole qu'un certain nombre de gens attendaient depuis longtemps, voire 2 ans. Je sais pas, Olivier?
En fait, sur la communication, sur l'ambiguïté, je pense qu'il y a aussi un trait personnel du président Macron qui adore se mettre en scène en train de réfléchir. Enfin, il a quand même beaucoup tendance à faire ça structurellement, donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais peut-être qu'on peut faire un petit détour conceptuel rapidement sur ce qu'est la dissuasion. Parce que fondamentalement...
Oui, monsieur le professeur.
On ne se refait pas.
C'est,
hein.
C'est bien d'avoir un universitaire pour une fois.
Moi, je suis payé pour ça. Hein, donc, mais fondamentalement, la dissuasion, c'est de convaincre l'adversaire que la non-action, ça vaut mieux que l'action. Que ne rien faire, ça vaut mieux que faire quelque chose. Et grosso modo, on considère qu'il y a 2 grands types de dissuasion, la dissuasion par déni et la dissuasion par représailles. Si j'essaie de faire très rapidement, si vous avez des enfants en bas âge, la dissuasion par déni, c'est votre enfant essaie de choper le pot de confiture qui est sur la table, ben vous mettez le pot en hauteur, et là le coup pour l'enfant de prendre une chaise, monter sur la table, monter sur une autre chaise pour prendre le pot de confiture est beaucoup trop élevé et il ne le fait pas. La dissuasion par représailles, c'est vous lui dites, écoute, si tu prends le pot, t'as une baffe. Donc je n'encourage pas de battre vos enfants, hein, je précise.
Ne faites pas la dissuasion par représailles avec vos enfants.
Ne faites pas de dissuasion par représailles avec vos enfants, mais c'est à peu près l'idée. Et dans les deux cas, le fait de ne pas explicitement dire quel va être le coût que va supporter l'adversaire dans son action, ça complique sa propre évaluation et son propre calcul, que ce soit à la fois dans la dissuasion par déni ou dans la dissuasion par représailles. C'est l'idée. Hein, et là-dessus, on sent bien qu'il y a quand même une pratique et une habitude qui est dérivée de la politique française de dissuasion nucléaire, avec des exercices assez routiniers, les grands discours de politique nucléaire du président qui justement ont comme objectif de ne pas expliciter ce que sont les intérêts vitaux français pour maintenir cette ambiguïté. On sent bien qu'il y a une habitude qui est ensuite transposée à un autre contexte. Et j'en reviens à la discussion qu'on avait un petit peu auparavant. Malheureusement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est partagé par tous les États européens. Cette analyse et cette habitude de ne pas définir de limites.
Mais alors, c'est une question quand même intéressante, parce que c'est toujours de politique éducative. C'est, est-ce que le meilleur moyen de mettre les autres à son niveau, c'est de faire comme on fait d'habitude et d'attendre qu'ils se mettent à niveau, ou d'essayer de faire de la pédagogie et de se concerter? Et là, on a l'impression de ce qu'on en voit, quoi, que c'est donc d'accord, on est très fort, nous on sait comment faire, suivez-nous, mais que manifestement ça a une efficacité, disons, dans... appelons ça l'acculturation stratégique, dans la capacité à faire perméer ces concepts à l'échelle des partenaires de la France. Bon, c'est d'une efficacité immédiate limitée, incertaine. Je sais pas.
Et si je peux juste finir rapidement là-dessus, en fait, l'idée de coordination, c'était l'initiative européenne d'intervention. C'était ce que voulait faire le président Macron en essayant de définir cette culture stratégique européenne au sein de l'initiative européenne d'intervention. Moi, j'ai toujours été un petit peu critique de cette initiative au final, parce que quand on en parlait avec des responsables français, l'idée était toujours de socialiser les autres Européens à ce que nous faisons. Mais l'idée que les positions françaises puissent évoluer au contact des autres Européens n'était jamais, ne serait-ce qu'envisagée. Donc forcément, c'était vécu comme ça également par les partenaires européens, avec toujours un peu cette réticence.
Et cette initiative, elle est lancée en 2018, juste pour
exactement.
Les gens...
Exactement. Ouais. Donc, il y a eu une tentative de pédagogie à la française, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer comment ça fonctionne, qui du coup a nécessairement eu un effet un petit peu limité. Mais là, encore une fois, on se retrouve en 2024 avec un timing qui est particulier, avec une situation stratégique en Ukraine qui est problématique pour l'Ukraine. Hein, il faut pas se voiler la face. Et donc là, on le fait un petit peu dans l'urgence. Donc il y a la double dimension de... Parce qu'en fait, il y a trois audiences en réalité quand Macron parle. Il y a la Russie. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un message à Vladimir Poutine. Il y a les autres Européens qui, en disant « bon, ben, voilà comment on fait, en quelque sorte ». Mais il y a aussi l'audience française, et j'en reviens à ce que je disais auparavant, où il s'agit de préparer la population à ce qui sera un conflit dans la durée.
Erika ?
Oui, à mon avis, il y a un problème avec cet argument de pédagogie, parce que la pédagogie arrive à ses fins si... les autres ont l'impression que le message, c'est « suivez-nous, on sait mieux ». Mais on ne fait pas assez soi-même. Et c'est exactement ça d'ailleurs que l'article là critique, où on dit que oui, Macron fait cette pédagogie comme quoi, ambiguïté stratégique, nous on l'a compris. Et d'ailleurs, moi a priori, je suis absolument pour. Mais en même temps, la France ne fait pas assez. Il faut pas, voilà, on s'en fiche un peu des nombres exacts, mais ne fait pas assez elle-même. Et donc du coup... C'est aussi pour ça que ça marche pas. C'est parce que justement l'Allemagne, qui se sent un peu éduquée, dit ben, « vous nous dites plein de choses, mais nous, on fait beaucoup ». Donc, premier point. Deuxième point, et je crois que Olivier a justement fait le bon argument là, avec, quand il parlait des audiences. L'ambiguïté stratégique, à mon avis, ne marche pas vraiment avec la population ou l'opinion publique dans certains pays européens. Et bien entendu, là, je pense encore à l'Allemagne, mais cette idée de ne pas exclure certaines choses, et le fait que ne pas exclure, ça ne veut pas dire qu'on le fait forcément, expliquer ça à la population allemande qui a quand même peur d'une escalade, qui a peur d'être impliquée dans une guerre avec la Russie, c'est très difficile à communiquer. D'ailleurs, ce n'est pas que les Allemands.
Oui, c'est ça. Vous êtes très charitable avec la population française, puisque manifestement, il y a un certain nombre de partis politiques qui ont vu un créneau là-dedans sur le fait que, oui, OK, donc personne n'a envie de faire la guerre et personne n'a envie de mourir dans une apocalypse nucléaire. Donc là, jusqu'à présent, on est tous d'accord. Mais il y a un certain nombre de partis qui ont, dans le contexte des européennes, qui ont vu un créneau, qui ont vu un boulevard sur « on n'aime pas la guerre, on ne veut pas mourir ». Bon, au moins, on peut être d'accord sur les... Ouais, c'est d'accord, c'est assez consensuel. Mais ce que je veux dire, c'est que même en France, manifestement, ça n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. Si j'ai vu des sondages passer un certain temps, on peut dire que les propos d'Emmanuel Macron ne font pas l'unanimité non plus. Hein. Les sondages sont plutôt assez mauvais là-dessus. Donc, bon, certes, ce n'est pas l'opposition radicale qui est en Allemagne qui a des conséquences directes sur les relations avec le chancelier, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Mais bon, en France, ce n'est pas une partie gagnée non plus. Hein, Olivier.
Est-ce que je peux poser une question aussi? Parce qu'il y a un point où je ne suis juste pas sûre. Rim, tu avais parlé de l'ambiguïté stratégique que Macron a toujours, disons, suivi et le moment important, décisif de 2013. Mais je me suis posé la question, est-ce que Macron a été consistant justement sur ça dans cette guerre? Parce qu'il me semble que quelqu'un m'a dit qu'à un moment, Macron aussi a exclu, par exemple, l'engagement de l'OTAN, etc. Donc, est-ce qu'il a vraiment été aussi consistant que ça? Parce que là, je suis tout simplement pas sûre. Mais si tu veux,
non, mais c'est une question très importante. Et d'ailleurs, ça rejoint le premier point que tu faisais, je pense vraiment, qui est très vrai, qui est cette question de la France veut expliquer la culture stratégique, mais elle n'en fait pas assez parce que c'est pas agréable à entendre, mais la France n'a pas les moyens économiques et financiers de le faire. Ça, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est vrai, mais il y a aussi, en plus de elle n'en fait pas assez, comment dire, étant donné son rang stratégique et l'idée que les Français se font de leur puissance sur l'échiquier mondial, il y a aussi une question de la France n'a pas assez fait assez tôt sur cette question de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça a pris quand même un an, plus ou moins, pour que la France commence à envoyer des armes vraiment sérieuses et à le dire publiquement. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important qu'elle le dise publiquement? Parce que ça fait partie aussi de la dissuasion conventionnelle. Ça fait aussi partie de l'ambiguïté stratégique. Donc non, la France et le président Macron n'ont pas été consistants depuis le début de cette guerre. Même au début, il y avait, pendant les premiers six mois de cette guerre, un désir de garder des canaux de discussion avec les Russes. Et c'est pour ça qu'on a entendu Macron dire il ne faut pas humilier la Russie, etc. etc. Après, aujourd'hui, même si c'était très difficile à expliquer à ce moment-là, parce que ça faisait depuis 2019 qu'il essayait de parler avec la Russie et que la Russie lui disait « non merci », aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut utiliser ce qu'il a fait depuis 2019 pour dire à ceux en France qu'il accuse d'être va-t-en-guerre « écoutez, moi j'ai passé 3 ans à essayer de parler avec la Russie, à essayer de négocier, à essayer de faire la paix, et la vérité c'est que Poutine n'en veut pas. » Et donc à un moment, il faut en tirer les conséquences. Donc peut-être que le moment de transformation, parce qu'il y a une vraie transformation dans la posture et la position du président Macron sur cette question de la Russie depuis son discours à Bratislava il y a presque un an, et c'est une transformation qui a pris son temps, elle a peut-être le mérite de montrer que Macron a su évoluer. Après, à nouveau, il faut confirmer tout ça par des actes et de vrais financements et de vrais investissements. Et ça, c'est vraiment une question sur laquelle que la France ne peut pas nier.
Oui, très rapidement, je voulais juste réagir sur le fait que la population française n'est pas aussi unifiée dans sa compréhension de l'ambiguïté stratégique, mais on paye aussi le fait que la politique de défense est fondamentalement quelque chose qui est décidé en tout petit cercle auprès de l'exécutif, sans réel débat parlementaire, parce que le Parlement a très peu d'influence sur la politique de défense, avec un nombre d'experts et de spécialistes dans les universités ou dans les think tanks qui est extrêmement limité. Donc il y a aussi une question de De préparation générale de la population qui est impossible, qui est rendue impossible par le fonctionnement particulier de la Ve République. Donc il y a quelque chose qui est certainement, qui relève de la nature du régime et qui s'agit de repenser. En tout cas, ça, pour moi, ce sera probablement l'une des principales leçons de cette crise et de cette guerre. Et comme Rim le mentionne, il y a une question d'instrument de politique publique. On a une LPM qui a été adoptée 2024-2030. Pour moi, le processus est arrivé beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que on venait à peine d'observer les premières leçons de l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la LPM, c'est un magnifique exemple de dépendance au sentier. C'est-à-dire qu'on a fait exactement le même modèle d'armée en un peu plus cohérent. En fait, on n'a fait aucun réel choix sur le modèle d'armée lui-même. Sauf que là, il est engagé pour 2024-2030. Donc les instruments qui permettent de renforcer, par exemple, le soutien à l'Ukraine, les instruments de politique publique sont contraignants parce qu'on s'est contraint nous-mêmes dans ce processus.
LPM, loi de programmation militaire.
Pardon.
Non, mais parce qu'il y a quand même des gens comme moi, des non-natifs qui nous écoutent, et donc voilà.
Il est temps, donc après... presque 50 minutes plus tard, de remarquer qu'on a complètement oublié que Rim avait commencé cette émission en disant qu'il y avait 4 choses inexactes dans cet article et que donc on est resté sur le premier pendant 3 quarts d'heure, mais peut-être que Rim se souvient encore des 3 autres.
Je vais les énumérer rapidement. Donc le premier, c'est Macron ne s'est pas coordonné avec ses alliés, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, que ce n'est pas sérieux. On a expliqué pendant cette émission que clairement il y a une vraie réflexion qui a fait son chemin d'une manière sérieuse dans le système de l'État français. Troisièmement, Macron est accusé, pas juste dans ce papier mais dans beaucoup de commentaires depuis cette conférence le 26 février, de jouer pour la galerie, en anglais grandstanding, et vraiment, les gens qui m'ont lu pendant très longtemps savent que je peux être dure des fois, mais là, c'est vraiment pas le cas de Macron qui joue pour la galerie. Et quatrièmement, la fin du papier cite un officiel anonyme américain qui dit « rien d'utile n'est sorti de cette conférence ». Et je vous réfère à ce que j'ai dit sur les 5 catégories d'actions que Macron a annoncées sur lesquelles il y a du consensus. Je vais juste les récapituler. Aider l'Ukraine sur le cyberdéfensif, faire de la coproduction d'armement en Ukraine, aider l'Ukraine pour tenir sa frontière biélorusse avec des forces non militaires, donc c'est des gendarmes, mais bon, Macron dit forces non militaires, aider dans le déminage et aussi aider la Moldavie et d'autres pays à se défendre. Donc,
mais je vais faire être un peu charitable avec les auteurs de cet article, et puis plus généralement l'idée qui est derrière, c'est, et ça apparaît un peu dans l'article, c'est l'idée que y a besoin de moyens, il y a besoin d'argent, il y a besoin de matériel, de masse. Et tout ça, c'est coincé au Congrès américain, essentiellement.
Pas seulement. Je pense qu'ils ont raison quand ils disent que la France n'en fait pas assez pour les financements.
Mais que donc il y a cette idée que... c'est pas un concept qui nous est étranger non plus. Que, donc c'est coincé aux États-Unis, donc il faut prendre le relais. Il faut que ça passe et on a besoin d'avoir des nombres avec beaucoup de zéros en termes de volume, de valeur d'aide. Et... l'idée peut-être un peu sous-jacente, c'est qu'on attendait de cette conférence d'avoir beaucoup de zéros qui sortent à la fin et qu'ils ne sont pas sortis. Et ça, c'est relativement vrai. Alors, c'est encore une fois faire de la qualité plutôt que de la quantité. Il y a eu de la qualité qui est sortie de cette conférence puisque conceptuellement, manifestement, ça a progressé. N'empêche que la quantité n'est pas tant sortie que ça.
Alors, je pense que c'est vraiment un point super vital et important. Crucial, les Européens doivent relever ce défi. L'Union européenne et les pays européens ont un problème de production de richesse. Quand on compare avec les chiffres économiques de la performance économique de la région européenne avec les États-Unis depuis 2008, c'est effarant. Le décalage. Les États-Unis produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de richesse. C'est pour ça qu'ils ont les moyens qu'ils ont. Il faut trouver un moyen de résoudre ce problème. La première ministre estonienne a proposé qu'il y ait un emprunt collectif européen pour dégager ces zéros avec des eurobonds. Macron a soutenu. L'Allemagne est contre. Mais c'est dogmatique pour l'Allemagne. Il y a un sujet avec
les Allemands, ça, c'est la dette. Les emprunts communs depuis...
Voilà.
Oui, exactement. Ça, c'est vraiment pas sur cette guerre-là. C'est beaucoup plus, comme tu dis, dogmatique.
Et ça, c'est donc une discussion qui doit prendre beaucoup plus de temps. Malheureusement, c'est vrai. il n'y a pas vraiment le temps. Là, le temps presse, et donc c'est un vrai sujet. Et bon, les gens travaillent dessus, je ne sais pas s'ils vont arriver à dégager une solution dans un temps qui soit propice ou utile pour l'Ukraine. Mais c'est vraiment la grosse question. Moi, je voulais juste revenir sur la question de la peur qu'Ulrike a soulevé, parce que je pense qu'elle est essentielle et ça fait partie de la prise de conscience collective dans les électorats et donc dans les populations civiles en Europe. C'est difficile de sortir de la mentalité de la dividende de la paix. Bon, la plupart des gens qui sont vivants aujourd'hui en Europe n'ont jamais connu la guerre, heureusement. La guerre les effraie, heureusement, parce que la guerre, c'est pas quelque chose de marrant. Mais il faut un peu se reprendre en main et commencer à parler différemment de ces questions, parce que la Russie, elle, son peuple, il parle pas dans ces termes. Et ça donne à Poutine des marges de manœuvre que les Européens n'ont pas. Et aujourd'hui, la Russie de Poutine s'est érigée comme adversaire de l'Union européenne et des pays européens. Et Poutine le dit explicitement depuis des années, depuis 2007, il veut détruire l'Union européenne. Donc si on ne prend pas conscience du danger qui vient, j'ai oublié qu'il a dit, mais il y a une citation, la guerre peut-être ne t'intéresse pas, mais tu intéresses la guerre. Et donc à un moment... C'est qui ?
Trotsky.
Trotsky, voilà. Je suis pas bonne avec les noms, mais je me rappelle de ce que les gens racontent. Et je pense que ça, c'est un dicton sur lequel il faut beaucoup réfléchir aujourd'hui en Europe en termes de prise de conscience publique.
Tiens, peut-être, tu n'intéresses pas à la guerre, mais la guerre s'intéresse à toi.
Oui, voilà.
Non, mais simplement sur... Puisqu'on était sur une question de dissuasion, sur une question... Mais je pense à un papier récent, une interview récente de Bruno Tertrais dans Le Grand Continent qui était tout à fait intéressant sur la dissuasion nucléaire dans le contexte de l'Ukraine, où il remarquait quelque chose qui est assez classique, mais qu'on ne décide pas de dissuader quelqu'un. C'est l'adversaire qui décide s'il est dissuadé ou pas. Et donc ça, la question que ça pose, c'est là, pour l'instant, on parle entre Européens. Donc est-ce que les conceptions de la France peuvent s'élargir aux autres pays européens, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire, etc., etc. Est-ce qu'on a la moindre idée de si ça marche ou pas, puisque pour l'instant on n'est que dans l'hypothétique sur, bon, il s'agit de compliquer leur calcul, est-ce qu'on sait si le calcul des Russes est en quoi que ce soit compliqué par ça, est-ce qu'on a le moindre indice que les Russes sont sensibles à ce genre de pression ou à ce genre de manœuvre de la part du bloc occidental, disons, Olivier Schmitt.
Il y a plusieurs dimensions à la question en réalité. La première aspect, c'est est-ce qu'on peut savoir si la dissuasion marche ? La réponse, en fait, est non. Parce que par principe, s'il ne se passe rien, c'est peut-être que la dissuasion marche ou peut-être quelque chose d'autre. Et c'est même l'un des avantages de la dissuasion, c'est qu'en réalité, l'adversaire peut toujours dire « Non, mais de toute façon, je ne voulais rien faire. » Donc,
c'est pas que j'ai peur de vous.
Voilà.
C'est prouvé une négative.
Je sais me battre. je pratique le
coup. Au pire, je sais le faire. Et c'est même un avantage, parce que c'est beaucoup plus facile pour un adversaire de dire que je n'ai jamais voulu faire quelque chose, plutôt que faire l'inverse de la dissuasion, qui est la coercition, c'est-à-dire forcer un adversaire à changer de comportement. Parce que là, il y a une question d'image et de perte d'image si on change de comportement suite aux pressions de quelqu'un. Donc, en réalité, conceptuellement, c'est impossible à prouver. Est-ce que les Russes réagissent à ce qu'on fait ? Oui, clairement. Enfin, c'est évident. Quand on déploie il suffit de voir la réaction immédiate de certains dirigeants russes après l'annonce de Macron, disant que c'était l'enfer qui allait s'abattre sur Terre, que c'était horrible, la guerre allait arriver, c'est que ça leur plaît pas. Donc,
on a une version mini-moi de ça qui est toujours l'inénarrable porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris qui de temps en temps réapparaît sur un plateau télé. On peut pas dire que ça nous réjouisse, mais on voit, disons, à son degré de tension nerveuse, à quel point ça peut être ou pas pertinent, à quel point ça chatouille ou pas les Russes, quoi.
Oui, ça me semble assez évident que le degré d'énervement des tweets de Medvedev, par exemple, est un signe de est-ce que ça, quelque chose fonctionne. En l'occurrence, si on regarde les dernières déclarations, oui, il n'a pas l'air très content. Donc
Dmitri Medvedev, l'ancien Premier ministre puis président de la Fédération de Russie, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est... justement, on peut peut-être passer directement à la dernière partie, à savoir nos coups de cœur, coups de gueule mutuels. On a essayé cette fois de ne pas faire dans la facilité, de ne pas avoir tous des coups de gueule comme c'était le cas la dernière fois. Je ne sais pas qui veut commencer. Olivier, puisque c'est votre... c'est à vous l'honneur, puisque vous êtes nouveau venu.
Ok. Bon, moi, j'ai fait dans la facilité, j'ai un coup de gueule.
Très bien.
Non, mais j'ai été un petit peu agacé récemment par ce que j'appelle le gaullisme gériatrique. On a vu Luc Ferry, par exemple, expliquer qu'il y avait 6 pays baltes qui n'étaient pas membres de l'Union européenne et de l'OTAN, et qu'apparemment, comme il était vexé qu'on lui ait fait remarquer qu'il n'ait pas acquis les compétences que normalement on est censé acquérir en géographie au collège, a répondu « Je suis gaulliste, je n'ai pas besoin de recevoir de leçons de courage ». On avait Henri Guénaud, qui était quand même conseiller d'un président de la République, qui était condamné, dont le gouvernement s'était illustré par la vente de Mistral à la Russie. Henri Guénaud lui-même, qui pensait qu'apparemment on pouvait arrêter un camion au lance-roquettes au milieu d'une foule, et comme suggestion.
Ça, c'était suite au 14 juillet 2016.
Voilà, suite au 14 juillet 2016, on a entendu dans un sophisme complet expliquer qu'apparemment défendre les pays européens contre un agresseur sur notre territoire, c'était équivalent à rentrer en croisade contre le monde entier. Je ne parlerai pas de Dominique de Villepin, puisque quand il est entre quelques contrats pour des États étrangers, il trouve le temps de passer à la télévision. Mais il y a quand même une industrie des gaullistes autoproclamés qui pensent apparemment que De Gaulle était une sorte de tiers-mondiste pacifiste qui se faisait intimider par le premier haussement de sourcils des soviétiques. Alors, on peut débattre autant qu'on veut des mérites respectifs de la politique étrangère du général De Gaulle. Moi, j'ai personnellement tendance à penser que c'est au total plus un échec qu'une réussite. Mais surtout, on est dans un environnement qui est complètement différent, puisque le général de Gaulle a quand même quitté le pouvoir il y a plus de 50 ans. Et ce qui m'agace le plus, c'est qu'on ne peut pas faire du général de Gaulle une espèce de hippie prêt à toutes les soumissions face à des adversaires déclarés. Alors, par pitié, arrêtez l'incantation gaullienne à tort et à travers. Et pour citer la série Immortelle, au service de la France, c'est pas un peu fini de citer le général de Gaulle pour justifier toutes vos conneries.
On peut faire une émission spéciale juste avec les coups de gueule d'Olivier.
C'est ça, on va faire des monologues, on va faire des... Non mais c'est super. Non mais y a rien à ajouter, ils sont tous... depuis Dominique de Villepin, quand il parle notamment de ce qu'on pense de nous ailleurs dans le monde, c'est toujours tout à fait...
Moi, je me dis assez souvent, j'espère que le général de Gaulle ne peut pas entendre la conversation de là où il est. Parce que ça doit quand même peut-être le saouler de toujours revenir dans toutes les conversations, à toutes les sauces.
Alors, connaissant un peu le personnage, je suis pas sûr que ça l'aurait tant gêné que ça. Ulrika,
Moi j'ai un coup de cœur, parce que moi je suis sympa, moi.
Ah ben merci. Coopération franco-allemande, on voit ça.
Voilà, on retrouve ça à tous les niveaux.
Ouais. Les petites attaques comme ça. Oui, donc mon coup de cœur, c'est plutôt une recommandation en fait, parce qu'il y a une nouvelle série dans le New York Times qui s'appelle At the Brink, donc au bord du gouffre, et c'est sur les armes nucléaires. Et donc... c'est toute une série, ça a commencé en mars et l'auteur principal c'est Bill Hannigan, et en fait c'est pas que des articles, c'est du vrai audiovisuel disons, et pour moi c'est vraiment une série qui essaie d'augmenter un peu notre IQ nucléaire. Donc le premier article que moi j'ai vu, c'était sur le pouvoir exclusif du président américain à déclencher l'arme nucléaire, mais il y en a d'autres et il va y avoir d'autres. Et moi justement, à mon avis, on vit dans des temps où il faut comprendre mieux le nucléaire. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'une des raisons pourquoi les Français, ou au moins les cercles stratégiques françaises, comprennent mieux cette idée d'ambiguïté stratégique que, disons, les Allemands ou les cercles d'experts allemands, ça vient aussi du nucléaire. Ça vient du fait que les Français ont une arme nucléaire, donc il y a toujours une certaine ambiguïté sur ça, et que les Allemands ne l'ont pas. Donc, tout ça pour dire qu'il faut malheureusement s'éduquer un peu plus sur tout ce qui est arme nucléaire, et ça, c'est un bon endroit où commencer.
Je mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode.
Eh bien, moi, j'ai un coup de cœur. Et c'est un coup de cœur qui est assez rare, parce que c'est un coup de cœur pour un discours par, tenez-vous bien, un politicien allemand.
Donc voilà, qui... là, le franc-allemand, c'est rien qui nous sauve.
C'est les États-Unis qui vous sauvent, l'américaine de service.
Je voulais pas le dire. Une fois de plus, comme d'habitude.
Je voulais pas le dire. Voilà. Non, mais plus sérieusement, donc moi j'ai un coup de cœur pour un discours que Merz de la CDU a donné il y a deux jours, donc vers le 10-11 mars, qui est un discours. Alors lui, évidemment, il est candidat pour être chancelier aussi vite que possible. Disons, il est leader de l'opposition. C'est un discours qui est très offensif contre la position de politique étrangère du chancelier allemand Scholz, mais c'est pas pour ça que c'est un coup de cœur pour moi, vraiment. J'ai trouvé que c'était très intéressant ça montrait l'évolution dans une partie la classe politique allemande sur ces questions stratégique. On voit une évolution. Après, c'est pas au même niveau partout, c'est pas très cohérent, mais je trouve qu'il y a quand même des bougies qui sont importants. Et dans ce discours, Merz cite Cicero, c'est comment on dit en français ?
Cicéron.
D'accord, Cicéron. Excusez-moi, mais les gens oublient, le français n'est pas ma langue maternelle. Il cite Cicéron qui dit « Si vous voulez la paix, préparez la guerre », ce qui est quand même énorme venant d'un politique allemand dans le contexte actuel. Et il dit « Celui qui a commencé cette guerre doit la perdre et l'Ukraine doit gagner ». Et il fait vraiment un discours qui est très offensif, ce qui montre qu'il y a un vrai débat stratégique aujourd'hui en Allemagne. Et je pense que ça devrait nous faire plaisir, parce que ça veut dire que les lignes bougent et qu'il y a on peut avoir un peu d'optimisme tout en restant réaliste sur les possibilités de vraiment aboutir à une culture stratégique commune en Europe et peut-être même une Europe de la défense.
Vous aurez donc réussi l'exploit de citer à la fois Cicéron et Trotsky dans la même émission.
et Friedrich Merz. Non, mais important, juste pour réitérer ce que Rim vient de dire, il y a un vrai débat en Allemagne et surtout aussi au sein de la coalition qu'on a en ce moment. Et donc, il y a une vraie dispute entre Scholz et le membre de son cabinet, des parlementaires, etc. Donc, il y a des choses qui bougent.
Et c'est tout à fait intéressant, et peut-être qu'on en fera une émission un jour, mais c'est le fait que, il n'y a pas qu'en Allemagne, en France aussi, la politique internationale se repolitise, ce qui est vraiment une évolution extrêmement marquante par rapport à l'espèce d'encéphalogramme plat qu'il y avait depuis 50 ans. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose quand il y a plein de gens qui nous disent qu'il faut absolument laisser l'Ukraine et que ce n'est pas notre guerre, etc. Mais en tout cas, manifestement, ces questions de politique internationale sur lesquelles on avait un consensus très large depuis un demi-siècle, disparaissent, enfin ces consensus-là disparaissent et tout ça redevient politisé, notamment dans le contexte des élections européennes, et on va voir ce que ça donne à plusieurs semaines et plusieurs mois, mais c'est une évolution majeure dans la politique européenne, je crois. Enfin, je vais terminer moi par un coup de cœur, tout à fait sincère et profond, pour Dimitri Medvedev, puisque Olivier Schmitt y a fait référence déjà tout à l'heure, qui nous a donc hier, au moment où on enregistre cette émission, a quand même publié un tweet en français, donc bel effort. Je cite, Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons, ça sentira très fort. PS, j'ai écrit ça ce matin et je n'ai pas eu le temps de le publier, point d'exclamation, et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pauvre France. Comme quoi, la poésie russe n'est pas morte, hein, c'est toujours un chant bien vivace, mais non, mais c'est. En vérité, il y a quelque chose, il y a deux, trois trucs méthodologiques à tirer de ça.
Il y a le verbe haut quand même.
Tout à fait.
Il faut saluer.
Non, mais il y a deux, trois trucs méthodologiques, notamment le fait qu'il ne faut pas tweeter bourré et que les traducteurs automatiques, ça a des limites, disons, pour exprimer un message de manière fluide dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Il y a une créativité conceptuelle, un trouillard zoologique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai plein d'hypothèses. Et puis surtout, là où c'est un coup de cœur, au-delà du lyrisme de sa plume, c'est quand même que ça fournit une clarification périodique de ce que sont les élites russes. Heureusement qu'il y a Dimitri Medvedev pour voir un peu le bordel que c'est, Moscou, et le fait que ça n'est pas, comme on a tendance à le penser, parfois un grand empire qui développe un rouleau compresseur en Ukraine, qui a une pensée stratégique extrêmement cohérente, et je ne sais pas combien de centaines d'années d'histoire, et qui ne s'est jamais fait envahir, etc. etc. Non, voilà, c'est ça aussi la Russie, c'est ça aussi l'appareil d'État de Poutine. dans le personnel et puis dans les motivations, puisque ça, c'est quand même de la flagornerie de bas étage pour essayer de plaire, de revenir en grâce à Vladimir Poutine, puisqu'on peut rappeler que les relations entre les deux ont quand même été très shaky à une époque, puisqu'il y avait quand même l'idée que est-ce que Medvedev voudrait rendre sa place à Poutine. Bon, rétrospectivement, ça peut être amusant, mais donc voilà, c'est aussi une fenêtre quand on voit quelqu'un qui a été quand même un président de la Russie tweeter ce genre de truc et d'ailleurs toujours ne pas l'effacer 24 heures plus tard. Voilà, ça révèle ce qu'ils sont, le niveau de sophistication intellectuelle qu'il y a dans certains cercles et puis aussi les motivations, c'est-à-dire bassement courtisane. Et voilà, ça permet de se rappeler un peu que c'est pas quand même des joueurs d'échecs en trois dimensions ni des joueurs de Go immenses en face de nous. C'est un appareil d'État quand même très dysfonctionnel qui s'est engagé dans une guerre qu'ils ne sont pas en train de gagner, quoi qu'il arrive. Et voilà, ça permet de remettre un peu les choses aux bonnes proportions quand on lit ce genre de choses. Olivier Schmitt ?
Oui, alors, sur le fond, tout à fait, mais il faut aussi voir les réactions en France, le nombre de gens qui disent « Ah, mais quand même, c'est vrai que regardez ce que dit Medvedev, Macron nous fout la honte. » Et moi, c'est plus ce genre de réaction qui m'inquiète.
Ouais. Pour moi, ce qui est quand même complètement fou, c'est que je me rappelle bien quand j'ai lu l'autobiographie d'Obama, quand il parle de, je crois, sa première rencontre, ou une des premières rencontres avec Medvedev, où il était dans sa résidence, genre chose, il avait un dîner, et il est sorti de cette rencontre, et il dit quelque chose du genre, oui, en fait, on est tous les deux le même genre d'homme, et dans un monde différent, on aurait pu être amis, et on se comprend sur une... Tout ça, ça c'était aussi Medvedev. Enfin, on croyait à ce moment-là que, voilà, c'était quelqu'un de sérieux et de...
On croyait même qu'on pourrait jouer Medvedev contre Poutine.
Oui, exactement. Et là, pour moi, c'est quand même fou ce qu'il est devenu, là.
Très bien, bah sur cette conclusion, merci beaucoup à tous les trois, donc Momtaz, Olivier Schmitt et Ulrike Frank, pour ce tour d'horizon. Et puis on reviendra, je pense, dans un mois et demi, peut-être avec Télé-Télé-Télé-Télé-Môme, peut-être pas, qui sait. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci.
C'était donc Le Communimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires et réactions, et là il y a éventuellement du grain à moudre sur les réactions avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.